Thank you. me suis dit avant, on l'a oublié. Ouais. Ouais, exactement.
Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme ce matin, que vous êtes heureux d'être là. En tout cas, moi je le suis. Merci de votre présence. Bienvenue à chacun, chacune, aux habitués, aux nouveaux, aux visiteurs et puis surtout à la famille d'Antonio Vitelli. Pour Antonio, nous allons vivre son baptême tout à l'heure et nous réjouissons de l'accompagner pendant ce moment. Nous allons garder les enfants, vous serez parmi nous jusqu'au baptême d'Antonio. Il y aura un témoignage, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Soyez les bienvenus ici pendant une partie du culte de ce matin. J'aimerais prier pour commencer ce moment. Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, de dire ta bonté du matin jusqu'au soir. Fais-moi comprendre tes volontés. Ouvre mon cœur à ta parole. Je me réjouis de tes promesses. Joyeux comme celui qui découvre un trésor. Je louerai ton nom, Seigneur, par des chants. Tu es grand et digne de louange. Que le ciel et la terre et toutes ses créatures acclament le Seigneur. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse de ses œuvres. Amen. Je vous invite à un moment de chant et de louange accompagné de notre belle équipe ici. Et je vous invite à vous lever.
Que toutes ces créatures acclament notre Seigneur. C'est nous, si jamais. Je vous invite à entrer dans la présence de Dieu qui nous a précédés ici ce matin. Que nous soyons riches, pauvres, malades ou en santé. Nous voulons l'adorer, nous voulons nous réjouir aussi avec Antonio et sa famille qui attestent aujourd'hui que Dieu est son sauveur. Alors chantons avec lui. Dieu est notre sauveur à tous. Il est venu sous la forme d'un homme il y a 2000 ans, un homme nommé Yeshua, Jésus. Il n'a pas péché et il est mort pour nous. Alors rien ne pourra nous séparer de son amour pour nous. Amen. Incomparable, amour véritable. je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. Précieux Fils unique. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. J'entends nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Oh, ton peuple, ton peuple uni à tous les anges déclarent tu es le Dieu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. D'une seule voix. Oh, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges. Seigneur, nous te prions pour les plus faibles parmi nous, les personnes malades, les personnes en burn-out, les personnes en dépression, les personnes seules. Et j'aimerais nous inviter tous ce matin à chanter ce prochain chant en pensant à une personne spécifique de notre entourage que vous aimez et que vous aimeriez que Dieu relève. Tu es venu me chercher. Nous allons finir par chanter « Transforme-nous pour ton royaume ». Ce sont des paroles fortes. Est-ce qu'on désire vraiment voir nos cœurs transformés ? Lâcher ce qui nous tient vraiment à cœur, comme Jésus le demande à ses disciples, à changer nos vies et nos envies pour faire sa volonté.
Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles.
Contre ton nouveau.
et change nos cœurs gravés de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-nous à ton œuvre.
Amen, Seigneur. Consacre-nous à ton œuvre. Nous sommes à toi et nous voulons nous mettre à ta suite. Amen.
Merci beaucoup. Prenez place. Bonjour à chacun, à chacune. Soyez effectivement les bienvenus. Et toi en particulier, Antonio, avec Elisa, Francesca aussi. Soyez les bienvenus et toute votre famille. C'est précieux de vous avoir avec nous ce matin. C'est précieux de vivre ces moments à la fois. Ils sont simples et intenses. On a un mélange un peu étonnant. D'étonnant. Je te vois plus stressé que derrière ton comptoir. C'est bizarre. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Antonio et Elisa ont une épicerie italienne comme j'en ai jamais connue personnellement, ou sinon aux confins de l'Italie. Mais là, c'est beaucoup plus près. C'est au centre commercial de Mérin. Alors, on ne fait pas de pub, ce n'est pas l'idée. Hein. Mais j'aimerais dire une chose. C'est que l'Évangile, il se manifeste aussi très concrètement dans la vie de tous les jours. Et ce que je vois derrière votre comptoir, pas seulement la qualité de vos produits, mais la façon de les servir, la façon d'être en lien avec vos clients, montre quelque chose de l'Évangile. Et vous êtes un sujet d'encouragement pour moi, et je tenais à vous le dire. Ce matin, nous allons donc célébrer le baptême d'Antonio. Et puis peut-être que pour nous qui sommes déjà baptisés, eh ben, ça va faire remonter quelques souvenirs, le souvenir d'un engagement précis à un moment donné, quelque chose qui nous rappelle l'œuvre du Seigneur en notre faveur. Il est sauveur. Et peut-être que ça va nous ramener à ce jour-là. Peut-être aussi que ça va nous poser des questions si on n'est pas encore baptisé. Pourquoi pas ? Si je reconnais que Jésus est mon sauveur, si j'ai envie de mettre mes pas dans les siens, pourquoi pas ? Et ben, vous allez le voir, ça se fait assez simplement. On s'est vu avec Antonio, on a parlé de ce qui le poussait pour être baptisé. On a fait une petite préparation, ce n'était pas trop long, hein ? Ça allait. On travaille ensuite un peu sur le témoignage, sur le culte, voilà. Ça se fait assez simplement. Mais peut-être que si vous vous posez la question du baptême, moi j'aimerais vous encourager à ne pas lâcher le morceau. Allez au bout des questions que vous vous posez. Venez me voir, venez voir Thierry, Rebecca, un membre du conseil, un membre de l'église, venez en parler, ça vaut le coup. L'apôtre Paul a écrit ceci. « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. » Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. C'est pas rien de revêtir le Christ. C'est pas rien d'être des petits Christ dans la société, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre administration, dans votre salle de classe, votre chambre d'hôpital, votre EMS. C'est pas rien d'être des petits Christ. Quand on est sur le terrain, quand des choses peuvent changer, quand des vies peuvent changer, pas par le pouvoir, ça on va laisser de côté, mais par les qualités du Christ lui-même, humble et doux de cœur. Vous avez revêtu le Christ. Il y a le Antonio que je connais, que je vois des fois harnaché pour préparer la chair à saucisse, par exemple. Et puis, il y a le Antonio que je découvre, et c'est un homme de valeur, je peux vous le dire. Et derrière les traits d'Antonio, moi, je vois le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Le baptême, trois mots sur le sens de ce geste. C'est un symbole, le baptême, dans la tradition protestante, évangélique. C'est un symbole. et il symbolise des choses extrêmement fortes et à la fois tout simplement avec un peu d'eau. D'abord, il symbolise donc notre union avec le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Vous et lui, c'est la même histoire. C'est la même trajectoire. C'est les mêmes enjeux. Vous avez revêtu le Christ. Une union avec le Christ. À la vie, à la mort. Dans les ups comme dans les downs. À la vie, à la mort. Avec le Christ. Le baptême, il symbolise aussi notre mort avec lui, dit l'apôtre Paul. Nous sommes morts avec Christ. C'est ce qu'on va symboliser tout à l'heure en plongeant Antonio dans l'eau et en le gardant sous l'eau 2 secondes, 3 secondes, pas plus. Mais c'est un symbole. C'est le symbole d'une tombe liquide qui se referme sur nous, qui ne reste pas fermée, parce que Christ a pris la condamnation que nous méritions. Nos péchés nous mènent à la mort. Il l'a pris sur lui pour que notre trajectoire ne se finisse pas dans la tombe, mais à ses côtés. Une troisième chose symbolisée par le baptême, c'est justement notre résurrection. Parce qu'il ne va pas rester au fond de l'eau, Antonio. Comme Christ n'est pas resté au fond de sa tombe, l'histoire se finit comme nous le savons au matin du dimanche de Pâques. La tombe est vide. Les témoins sont des centaines, des milliers à voir le Christ ressuscité. L'histoire, elle continue. Et le baptême, il symbolise qu'Antonio, il est ressuscité avec Christ, en route sur le chemin de la vie nouvelle, la vie ample, la vie belle. Le baptême, il symbolise enfin un engagement concret avec le Christ. Et là, c'est plus que le symbole, c'est plus que de la flotte. C'est l'engagement concret. L'apôtre Pierre va écrire dans sa première épître que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes, sauf erreur, le 12 octobre 2025. Et nous tous et toutes ici, nous allons être témoins de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu de la part d'Antonio. Cet engagement, il est déjà pris depuis un petit bout de temps. Il est concret, il est cohérent, c'est tout à ton honneur. Mais aujourd'hui, on met une marque repère. On peut dire, et tu pourras te dire, et nous pourrons te dire, souviens-toi, Antonio, le 12 octobre 2025, dans ta belle trajectoire de vie, tu as pris l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est aussi pour ça que je nous encourage des fois à réfléchir pour nous au baptême comme point de repère dans notre vie. Et voilà donc que le baptême, comme on le découvre dans le livre des Actes en particulier, c'est aussi l'occasion de dire quelques mots de cette trajectoire avec le Christ. Et c'est ce qu'Antonio va venir faire maintenant. Il va venir vous dire quelques mots. Et je me réjouis que nous puissions t'écouter, t'entendre, Antonio, bien seulement.
Bonjour à tous. Voilà. Je m'appelle Antonio, voilà. Je crois que vous l'avez compris. Je suis né dans le sud de l'Italie, voilà, il y a 60 ans, dans une famille catholique. Depuis mon enfance, j'ai grandi dans une religion qu'il fallait aller à la messe le dimanche, se confesser, prier les statues. Mais au fond de moi, je n'aimais pas vraiment ça, quoi. Je faisais les choses parce qu'on me disait que c'était bien, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je me posais beaucoup de questions, à quoi résumer tout cela, voilà. Quel était le but de ma vie? J'ai continué à aller à l'église, un peu par habitude, un peu pour faire ce qu'il faut. Mais ce vide à l'intérieur de moi restait. Plus tard, je me suis marié, j'ai eu des enfants, mais malheureusement, mon mariage s'est terminé par un divorce, voilà. Ainsi dans le parcours. Et puis, en 2015, j'ai rencontré Elisa, voilà. Elle m'a parlé de sa foi, de sa relation qu'elle avait avec Jésus. Pas d'une religion, mais d'une vraie relation vivante. Et là, quelque chose a changé à moi. Pour la première fois, voilà, j'ai compris que le but de ma vie, c'était de connaître et suivre Jésus. Alors, il y a maintenant 10 ans, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et depuis ce jour, mon cœur a trouvé la paix que je cherchais depuis toujours. Cela fait 10 ans que je désire de me faire baptiser, voilà, et aujourd'hui, je rêve, ce rêve devient réalité. Avec mon épouse, nous cherchions une communauté évangélique à Mérin, près de notre petite épicerie. Et un jour, en cherchant sur Internet, nous avons découvert cette église, voilà. Et quand on a vu la photo du pasteur, voilà, on s'est exclamé, voilà, mais c'est Monsieur San Daniele. Quand il venait souvent acheter son jambon chez nous.
Eh oui.
Voilà. Alors, un samedi, je lui ai parlé, puis je lui ai raconté un peu mon parcours, mes hauts et mes bas. Ouais. Et je remercie Dieu de l'avoir mis sur notre chemin. Voilà. Aujourd'hui, je veux publiquement déclarer que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec lui chaque jour de ma vie. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. À toi soit toute la gloire. Wow.
J'invite la famille d'Antonio à venir interpréter un chant, je crois en langue italienne, n'est-ce pas ? C'est juste les deux et les paroles seront retransmises à l'écran. Je vous invite à vous approcher, la scène est à vous, les micros, le piano, et puis on va vous écouter, c'est à la gloire de Dieu, mais aussi pour Antonio.
Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Elisa, je suis donc l'épouse d'Antonio. Excusez-moi. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on attend ce moment. Et puis, on voulait remercier vraiment le Seigneur parce que vraiment, on a trouvé une belle communauté. Malheureusement, on ne vient pas très souvent parce que voilà, le travail, tout ça, parce qu'on travaille beaucoup. Quand on peut, on vient vraiment avec plaisir. On est très timide. Voilà. Et donc, on va interpréter ce chant. Voilà. Comme quoi, on va aller à la. On va dîner avec le Seigneur. C'est ce qu'on va faire toute notre vie. On va aller à la table du Seigneur. Et jusqu'à la fin de notre parcours sur cette terre. Et voilà. Alors, on va l'interpréter d'abord en italien. Notre langue maternelle. Et ensuite, vous pourrez même suivre avec nous, peut-être si vous connaissez ce chant en français. Et voilà. Et j'espère que ce chant puisse vous édifier et que Dieu vous bénisse.
Sempre nella tua Merci. Merci. Bravo.
Je vais inviter Antonio à s'approcher. Roger et moi, nous allons procéder au baptême par immersion. Hein, le mot même baptême, ça veut dire être immergé. Baptizo, en grec, c'est être plongé dans l'eau. Donc on va plonger dans l'eau pour être fidèle aux intentions du Seigneur qui ne nous met pas trois gouttes, mais nous revêt de sa présence et on va le manifester. En te plongeant dans l'eau, si tu veux rentrer voilà, de cette manière, et puis on te plongera comme ça, donc il faudra t'avancer un peu. Est-ce que ça va pour rentrer, t'as besoin ? Magnifique. Ah ouais, les lunettes. Bien vu. Il y a des gens qui ont des lunettes qui pensent qu'on va s'avancer un petit peu. Voilà. Antonio, on a entendu ton témoignage. Merci hein, pour ce que tu as partagé. Moi, je trouve que l'œuvre du Seigneur Jésus, elle est évidente dans ta vie. Et c'est formidable de pouvoir le concrétiser maintenant, ce matin, par ce geste que tu as attendu, que tu as préparé. Est-ce que tu confesses devant Dieu, devant cette assemblée réunie ? Vous pouvez vous lever, hein, si vous souhaitez. Les enfants, vous pouvez vous approcher, c'est permis. La famille aussi, hein, n'hésitez pas, quelques vidéos, quelques photos pour graver ce jour. Antonio, est-ce que tu confirmes devant Dieu, devant cette assemblée, que Jésus est ton sauveur ?
Je confirme que Jésus-Christ est mon sauveur.
Alors, sur la base de cette confession de foi, je vais t'inviter à t'asseoir un peu dans l'eau. Sur la base de cette confession de foi, nous te baptisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être avant qu'il sorte, j'aimerais juste prier pour Antonio et puis si quelques-uns souhaitent le faire, prier pour notre frère. N'hésitez pas à élever vos voix, je commence simplement ce temps de prière. Seigneur Jésus, ton œuvre est merveilleuse. Tu es un Dieu sauveur. Tu es un Dieu qui rétablit, qui remet sur pied. Merci pour nos fautes que tu as endossées pour nous revêtir de ta justice. C'est bouleversant, Seigneur. Nous, des pécheurs mortels, devenons pour toi des saints immortels. Nous recevons ta grâce, nous la considérons, nous la célébrons, non seulement aujourd'hui, mais pour la vie entière. Et je te prie de faire reposer sur mon frère Antonio ta grâce et ta paix. Seigneur, renouvelle-le, garde-le, sois lui en bénédiction, en famille, dans son entreprise, soutiens-le, garde-le. Nous le recommandons à ta grâce ensemble et nous le faisons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, tu viens de voir ce baptême d'Antonio. C'est vrai que nous ne pouvons que te le remettre pour qu'il puisse continuer sa course ici-bas en étant un témoin vivant. Amen.
Amen.
Le Seigneur nous remettre toute cette famille qui est là, qui l'entoure, afin qu'elle soit aussi pleinement bénie dans ce jour particulier, qu'elle soit gravée de leur mémoire pour l'éternité. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ce moment de joie, Seigneur. Antonio, Seigneur, il a fait ce pas. Et c'est merveilleux d'être, Seigneur, vraiment les enfants de ce Jésus qui nous a tellement aimés. Merci, Jésus. Merci, Antonio, pour avoir accepté Jésus. Merci. Que ta vie soit pleine de joie. Que toute ta famille se réjouisse, Seigneur. Nous nous réjouissons. réjouissons aujourd'hui pour toi. Et au nom de Jésus, nous te rendons grâce de rentrer dans notre famille. Amen.
Amen.
Dans ce monde bousculé, ce baptême d'Antonio que tu bénis, Seigneur, nous rappelle que tu es le rocher, le socle de nos vies. Merci parce que, pour lui comme pour nous, c'est là-dessus que l'on peut s'appuyer aujourd'hui encore et pour toujours. Amen.
Amen.
Seigneur, merci d'avoir placé Elisa sur le chemin d'Antonio.
Ouais.
Ça m'émeut. Et merci de placer Antonio sur le chemin. De tous ces Mérinois qui côtoient. Seigneur, que ta lumière puisse continuer de briller à travers lui et sa femme et toute cette famille.
Amen.
Merci Seigneur de nous dire dans ta parole toutes choses qu'on pour le bien de ce lieu. Et les épreuves par lesquelles Antoine a passé, tu nous as transformés en bien et en gloire. Et nous te bénissons pour toutes choses. Bénis cette famille tout en notre vie. Nous te prendrons Père dans le nom de Jésus.
Amen. Amen.
Que la grâce de Dieu repose sur toi, Antonio.
Merci.
Ça fait quelques gouttes, hein, c'est pas grave.
Voilà, pendant que Antonio va se réchauffer un petit peu, il nous a réchauffé aussi le cœur ce matin en voyant son parcours et son témoignage, et j'en suis profondément touché. Je vous invite à chanter, on va passer à l'offrande, c'est aussi un moment particulier où on a la joie de donner, en tout cas pour moi c'est toujours avec joie que je peux donner, que ce soit par Twint ou bien par e-banking ou bien par les sachets que nous allons passer. C'est un privilège de pouvoir participer à ce qui se passe dans cette communauté, ici et au loin. Je vous encourage à donner avec joie et avec un cœur reconnaissant. Nous allons chanter... Alors on y va.
Je vous invite à chanter « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Certains trouvent ironique qu'on prenne ce chant souvent pendant l'offrande, mais ça fait partie aussi de ce qu'on a de meilleur et ce qu'on veut lui donner. Je te donne tout. Vous êtes à vous rasseoir.
Voilà, Seigneur, je te remercie pour l'occasion que tu nous fais ce matin de nous engager, de aussi tout te donner, que ce soit notre vie, nos priorités, nos désirs, et nous te les remettons. Te remettons aussi les enfants qui vont rejoindre maintenant leur groupe. Bénis-les, bénis aussi les adultes, les monos qui les accompagnent. Amen. Voilà, vous pouvez suivre vos monos. Merci encore à eux. Et passez un bon petit moment en bas. C'est à toi, Philippe.
Je ne consulte pas mes mails, hein. J'essaie juste d'y retrouver dans mes applications. Voilà, je crois que c'est bon. Slido. Peut-être vous ne savez pas encore ce que c'est Slido, donc c'est une appli que vous pouvez facilement trouver en ligne et qui vous permet de poser des questions en lien avec la prédication, le texte biblique du jour. Et nous prenons quelques instants après la prédication pour répondre aux questions ou maximum de questions que vous vous posez, que vous nous posez. Et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Moi, je vous encourage à utiliser cet outil qui permet des échanges peut-être un petit peu plus pointus, un peu plus informels aussi. Mais pour l'instant, question pour un champion, un indice chez vous à la maison. Après la Pentecôte, c'est certainement l'événement le plus important dans toute l'histoire de l'Église. Je suis. Il est raconté 5 fois dans la Bible. Je suis. Une fois dans la lettre de Paul aux Galates. Une fois dans 1 Corinthiens 15. Je suis. Avec peu de détails jusque-là, mais encore un événement qui est raconté pas moins de 3 fois dans les Actes des Apôtres. Je suis. Non ? L'événement ? La conversion de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse. Eh oui, 5 fois dans la Bible. 5 fois dans la Bible, la conversion de Saul de Tarse nous est rapportée. Et on trouve donc le récit pour la première fois dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. À quelque part, ce livre des Actes, on pourrait l'appeler les Actes de Jésus, volume 2. Volume 1, les Actes de Jésus rapportés dans l'évangile de Luc. Volume 2, du même auteur, ce que Jésus a continué de faire à travers les apôtres. Et en écoutant le récit, vous allez remarquer, j'espère, qu'il parle non seulement de ce persécuteur de l'Église qui se convertit et de 2 chrétiens qui ont joué un rôle absolument remarquable au début de sa vie chrétienne, mais que le passage parle surtout de ce que le Seigneur Jésus fait de lui-même. Je vous invite à écouter maintenant la lecture que Daniel va venir nous faire d'Acte 9, les versets 1 à 30.
Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les emmener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prit en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et elles m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec l'autorité que lui ont accordé les grands prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car je l'ai choisi et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres peuples et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu marchais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à annoncer la bonne nouvelle dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et demandaient « N'est-ce pas lui qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Christ. Après un certain temps, les Juifs se concertèrent pour faire mourir Saul, mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors, les disciples de Saul l'emmenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté de la muraille de la ville en le descendant dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur raconta aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux. Il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères et sœurs l'apprirent, ils conduisirent Saul à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide de l'Esprit Saint.
Merci pour la lecture, lecture de la parole de Dieu jusqu'ici. Moi, je suis un garçon un peu curieux comme ça. Quand je lis un récit comme celui-ci, je me pose donc la question, pourquoi donner tant de place à cette conversion-là, alors qu'il y en a tant d'autres de conversions? Alors, une réponse facétieuse, ce serait de dire que Luc et Paul, c'était des bons potes, et qu'à quelque part, Luc fait à Paul une fleur en racontant son histoire. Parce que tous les deux, c'était des hommes cultivés, ils ont beaucoup voyagé ensemble, ils ont fondé des églises ensemble, ils ont souffert ensemble pour le nom de Christ. Est-ce que ça suffit comme réponse, l'amitié, la complicité entre deux disciples? Moi, ça ne me suffit pas. Je pense qu'avec Luc, nous avons affaire à un homme sérieux qui a récolté énormément d'informations et qui a choisi les éléments les plus importants pour raconter une histoire suivie. C'est l'histoire de ce qui s'est passé après l'ascension de Jésus. C'est le récit qui va porter l'évangile de Jérusalem en Judée, de la Judée à la Samarie, de la Samarie sur la terre des Grecs et jusqu'à Rome. Et dans la deuxième partie de cette immense aventure, celui qui deviendra l'apôtre Paul va jouer un rôle primordial. Et le Saint-Esprit là-dedans. Eh bien, s'il a inspiré l'auteur, je pense que c'est dans un double but. Un but stratégique et un but profondément spirituel. Le but stratégique, c'est de fonder le ministère de Paul. De légitimer le ministère de Paul, non seulement pour ses nombreux voyages missionnaires, mais encore pour son enseignement et pour son autorité en tant qu'apôtre. Derrière cette conversion, vous avez, nous avons aujourd'hui le quart du Nouveau Testament si on parle que des lettres de Paul, la moitié du Nouveau Testament si on parle des compagnons de Paul. Une conversion et une rédaction hautement stratégique, donc fonder le ministère de l'apôtre Paul, mais aussi un but spirituel. Les récits historiques de la Bible doivent nous faire réfléchir sur notre propre compte. Nous devons les comprendre dans leur contexte d'abord, mais ensuite ils doivent nous faire réfléchir sur notre propre compte. Est-ce que moi, je suis prêt à obéir comme Ananias, à être l'agneau qui va dans l'antre du loup? Ai-je la foi d'Ananias qui a dit sans l'ombre d'une hésitation, « Saul, mon frère » Ai-je le discernement et la générosité d'un Barnabas qui prend Saul avec lui et qui dit au chef de l'église: « Eh les gars, ce n'est pas une taupe, hein. Il n'y a pas de caméra cachée, il n'y a pas de micro caché. Saul, c'est un frère. » Où est-ce que moi, j'ai besoin de me convertir comme Saul? Est-ce que moi, je suis capable de répondre à l'appel de Dieu comme Saul l'a fait? Quelques mots sur l'enjeu stratégique. Au verset 15, le Seigneur dit à Ananias, « Va, car je l'ai choisi, Paul donc, et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres peuples et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Ça peut nous paraître banal de lire ça comme ça. Mais jusqu'ici, la mission des apôtres, jusque-là, elle s'est limitée au seul peuple juif et à leurs cousins, peu nombreux, les Samaritains. L'apôtre Paul, il va être le grand porte-drapeau de l'évangile en terre païenne, tout en ayant un beau ministère auprès de son propre peuple, où il va secouer le bananier ou le figuier. Donc, avec ce verset 15 ici, nous avons l'annonce non seulement des voyages missionnaires de Paul, mais aussi l'annonce de son ministère d'enseignement. Lui-même va en parler, Paul, quelques années plus tard, quand il écrit, par exemple, en Galates 1, « La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas d'ordre humain. Ce n'est pas un être humain qui me l'a transmise ou enseignée, mais je l'ai reçue par une révélation de Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, m'a choisi dès le ventre de ma mère et il m'a appelé à le servir. » Je souligne ici la souveraineté de Dieu, l'initiative de Dieu. Vous savez, personne ne s'improvise apôtre. Ça, ça n'existe pas. Dans nos fictions évangéliques, peut-être. Mais personne ne peut s'improviser apôtre. Personne, sauf Christ, en personne, ne nomme les apôtres. Cela vient de Dieu. On ne s'improvise pas apôtre. Et dans un but précis, hein, c'est de faire connaître le message de Jésus-Christ. C'est d'être l'agent de la révélation de Jésus-Christ. C'est annoncer à tous et à toutes, partout, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au sens fort et biblique du mot, les apôtres du premier siècle étaient uniques dans l'histoire. Quelques mots sur la conversion de Saul de Tarse. Il est assez courant à l'époque que les Juifs portent deux noms. L'un hébraïque, l'autre grec ou romain. C'est ainsi que Saul, Shaul en hébreu, se fait appeler Paul en terre grecque. Mais ce changement de nom, il est aussi très pertinent à quelque part pour symboliser le grand changement que le Seigneur Jésus a opéré dans sa vie. Le grand traditionaliste, l'ultra-orthodoxe, l'ardent défenseur de la culture, de la civilisation juive, est devenu un disciple de Jésus-Christ et l'homme de l'ouverture au monde païen. Comment ? Nous avons l'impression d'une conversion subite ici, et cette impression n'est pas fausse. Paul ne s'attendait pas à se convertir à Christ. Sous l'Empire romain, le grand prêtre de Jérusalem, dont il était aux ordres, avait autorité en matière de religion sur les Juifs de partout. Saul est donc en train de pourchasser ces abominables hérétiques que sont les chrétiens et les chrétiennes. C'est un grand inquisiteur avant les croisades. Il arrête des gens, il les emprisonne, il les expatrie vers Jérusalem. Il vote même leur mise à mort, comme celle d'Étienne. Mais derrière cette conviction, derrière cette haine apparemment inébranlable, il y a chez lui des failles. Parce que Paul combat ce qu'il craint, comme souvent. Il connaît le message des apôtres. Il a vu comment Étienne est mort. Il a entendu ses dernières paroles qui restent gravées dans sa confiance. Étienne disant « Je vois le Seigneur, pardonne-leur. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il a vu la foi et la constance d'innombrables chrétiens et chrétiennes, comme vous et moi, des gens tout simples, mais qui tiennent bon. Il connaît les Écritures. il a entendu la façon dont les chrétiens et les chrétiennes les interprètent. Mais si jamais le doute l'effleure, il refoule le doute. Il y a des aiguillons, il y a des pics, mais jusque-là, Paul n'en tient pas compte. Puis s'est produit ce que personne ne pouvait prévoir. La révélation de Jésus-Christ. La vision de Jésus-Christ ressuscité, glorifié. Étienne, il a prié pour ses meurtriers. Il a prié pour Saul de Tarse. Les chrétiens ont sans doute prié pour celui qui les persécutait, parce que c'était un ordre du Seigneur Jésus lui-même. Peut-être que le Seigneur a lui-même suscité ses prières. Mais à coup sûr, la révélation faite à Paul sur le chemin de Damas ne dépendait ni de Paul ni de l'Église. C'était le Seigneur sur le chemin de Damas, puis à travers Ananias, puis à travers Barnabas. C'était le Seigneur. Ne sous-estimons pas le Seigneur. Il peut se révéler comme ça, d'un coup, arrêter quelqu'un net. Est-ce que c'est une conversion forcée pour autant? Pas tout à fait. Parce que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. C'est deux façons complémentaires de regarder un même événement. La souveraineté de Dieu, la responsabilité humaine. Dans cette maison, donc, de la rue droite, Saul prie. Il cherche à comprendre. Il repasse en mémoire tout ce qu'il sait sur ce Jésus qu'il persécutait. Il prie encore. Il ne mange pas. Il est dans la repentance, la contrition. Il croit même, il croit. Mais il ne sait pas comment faire désormais. Et c'est Ananias qui l'aide à franchir cette étape-là. Saul dit à ce frère qu'il veut croire. Il accepte que ce frère prie pour lui. Il reçoit le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit se reçoit à la conversion. Il se fait baptiser, un vrai baptême de repentance et de foi, comme nous venons de vivre. Et tout de suite après, Saul de Tarse rejoint les disciples qui étaient venus le pourchasser. Il n'imagine même pas qu'il puisse appartenir au Seigneur sans appartenir à ses frères. Je le redis, il n'imagine pas qu'il puisse appartenir au Seigneur sans appartenir à ses frères. C'est une grande leçon pour nous ici, vraiment. On ne peut pas dire qu'on appartient à Dieu si on ne marche pas avec ses frères. L'Église, elle est là pour ça. Et tout de suite, Saul de Tarse témoigne. Tout de suite. Il me faut conclure. Ça nous dit quoi à nous, là, cette conversion? Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Et d'abord, peut-être ce que ça ne nous dit pas. C'est un récit qui est historique. Il a trouvé place dans notre Bible parce que l'événement est tout à fait exceptionnel, hautement stratégique. Pas parce que tout serait à copier. Le texte n'enseigne donc pas qu'il faut tuer deux ou trois chrétiens avant de se tourner vers le Christ. Ou le texte ne dit pas qu'il vaut mieux être voleur, drogué, tricheur avant de se convertir. L'Évangile, il est bien pour des assassins, des voleurs, des drogués, des tricheurs, des menteurs et tout ce que vous voulez. Mais il est aussi pour des gens qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, sauf à vivre sans Dieu. Il est pour des enfants. Il est pour des gens qui ont reçu une éducation chrétienne. Il est pour des gentils petits vieux. Il est pour des gens à qui tout réussit, comme pour des gens qui ont l'impression d'avoir tout raté. Vous savez, ce n'est pas la radicalité du changement qui compte. C'est la réalité de la repentance et de la foi. Autre chose que ce récit historique n'enseigne pas, c'est que tout le monde devrait se convertir au milieu de feux d'artifice et d'une révélation foudroyante comme Saul de Tarse. Le texte ne dit pas que tout le monde doit vivre la même chose. Les autres apôtres ne se sont pas convertis comme ça. Des enfants de chrétiens ne connaissent pas toujours un chemin de Damas. Même des athées peuvent se convertir graduellement, imperceptiblement, sur 6 semaines, 6 mois ou 6 ans. Ce n'est pas l'extravagance de l'action de Dieu qui compte. C'est la réalité de la repentance et de la foi. Mais alors, qu'est-ce que ce passage enseigne qui soit valable pour tous et toutes ? Je trouve d'abord que c'est une formidable pierre dans le jardin de ceux qui disent que toutes les religions sont bonnes, que toutes les religions sont pareilles, qu'elles se valent. Elles ne sont manifestement pas toutes pareilles, les religions, puisque Paul a dû en changer, du judaïsme vers le christianisme. Elles ne sont manifestement pas toutes bonnes, les religions, parce que celles qu'avait Saul jusque-là, le judaïsme, le poussait à combattre la vérité et il encourageait même le meurtre, pour des raisons religieuses. Des personnes religieuses peuvent se tromper. Des personnes religieuses peuvent sérieusement se tromper. Même ceux qui paraissent tout gentils. En lien avec ça, on peut dire qu'avoir une religion ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Vous savez, c'est une prédication qui s'appuyait en partie sur la conversion de Saul de Tarse qui m'a convaincu à l'âge de 15 ans que moi, fils de chrétien engagé dans une église évangélique, moi, j'avais besoin de recevoir la grâce de Dieu et de me tourner sérieusement vers le Seigneur. Pourtant, j'étais là dans une église. Maintenant, la foi de nos parents ne nous sauve pas. Les bonnes choses que nous faisons ne nous sauvent pas. La sincérité ne nous sauve pas. Des croyances, même chrétiennes, ne nous sauvent pas. C'est Christ qui sauve. Et notre part, c'est la repentance et la foi, l'engagement à le suivre à la vie, à la mort, manifesté par le baptême, même à cloche-pied, même aplati par terre, s'en remettre au Christ. Et si je peux me permettre de tirer une dernière leçon de ce récit, ce serait en rapport avec le rôle des chrétiens ordinaires. Ceux qui ont été tirés de leur lit par la police religieuse et qui ont refusé de renier le Christ. Ceux qui ont prié. Ceux qui ont continué à témoigner à leurs proches, ceux qui se sont rassemblés en communauté. Et je compte Ananias parmi les chrétiens ordinaires. Pas si ordinaire que ça, quand on pense au courage qu'il fallait pour obéir à la vision qu'il avait reçue, ou quand on voit les fruits de son obéissance. Mais en tout cas, c'est un exemple pour nous. Obéir pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est une joie. Et ça peut mener très loin. L'obéissance amène toujours la bénédiction. Est-ce que j'ose compter Barnabas parmi les chrétiens ordinaires ? Il a déjà fait un gros don à l'église de Jérusalem. Il a vendu un champ qu'il possédait, il a tout donné, acte 4. Il va devenir un pilier de l'église d'Antioche. Il va être le compagnon ensuite de Paul, le formateur de Marc, vous savez, celui qui a écrit l'évangile de Marc. À la fin de l'histoire, Barnabas, c'est de la grosse artillerie, à la fin de l'histoire. Mais là, dans ce récit, ce qu'il fait, c'est tout simple et c'est à la portée de tout le monde. Il accueille, il encourage, il entoure, il le fait spontanément, parce qu'il est quelqu'un de généreux. Il n'est pas centré sur lui, il est ouvert aux autres. Et son geste tellement modeste va avoir un impact énorme. parce que c'est grâce à lui que Paul va être accueilli par les autres apôtres. Et nous, l'amour qui coûte, hein, l'hospitalité, l'accueil, la confiance faite à autrui, l'accompagnement de celles et ceux qui sont plus jeunes dans leur foi. Yes, we can. Yes, we can. Oui, on le peut. C'est possible. Ce récit, finalement, il ne parle pas seulement de Saul qui se convertit, de deux chrétiens qui jouent un rôle remarquable au début de sa vie chrétienne. Le passage, il parle aussi de ce que le Seigneur Jésus fait lui-même. Il se révèle, il parle, il sauve, il pardonne, il guide, il inspire, il ordonne ce que Jésus fait. Ce récit ne parle pas seulement de la conversion de Saul en tant que tournant stratégique dans l'histoire de l'Église, mais il nous donne à réfléchir ce matin, j'espère, sur notre propre vie, sur notre propre engagement. Voilà le Seigneur qui me dit donc, Philippe, lève-toi. Antonio, lève-toi. Elisa, lève-toi. Alex, lève-toi. Barbara, lève-toi. Séverine, lève-toi. Lève-toi. Et puis va. Vas-y. Continue. Vas-y. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la rue droite, à Mérin, elle est où? Juste là, autour? Au verger, à Champfréchet? Au centre commercial de Mérin? Devant votre stand? Et si c'était la rue droite? Vas-y, lève-toi et marche. Je suis avec toi. Amen. Les quelques questions qui ont été posées. La première avec un score de vote qui dit quelque chose de votre intérêt pour cette question. Je sais qu'il y a beaucoup d'apôtres autoproclamés aujourd'hui, mais ne se pourrait-il pas que Jésus continue à établir des apôtres pour continuer son œuvre? Oui et non. Oui, parce que apôtre, étymologiquement, veut dire envoyé. Et vous et moi, comme j'ai essayé de le dire en conclusion, nous sommes des envoyés. On a reçu un cadeau énorme, on ne peut pas le garder, c'est à partager. On n'est pas tous à l'aise avec les mots, des fois les actions peuvent compter encore mieux que les mots, des fois le silence est plus important que la parole, mais vous et moi, nous sommes des envoyés. Un en sens, nous sommes des apôtres. Un en sens. Mais les apôtres tels que définis dans la Bible sont des hommes et des femmes, puisque nous avons Junia, qui est une apôtre, sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus lui-même, qui ont été enseignés par lui. Les 12 apôtres et l'apôtre Paul. De manière exceptionnelle, parce que pour Paul, il faut quelque chose de l'ordre de la révélation, il le dit dans ses 5 fois témoignage. Et ça, ni vous ni moi ne l'avons eu. Du temps avec Jésus en personne, nous ne l'avons pas eu. Donc des apôtres, au sens biblique du terme, des hommes, des femmes inspirés par Dieu, qui écrivent des paroles inspirées, attention. Des hommes, des femmes qui auraient l'autorité des 11, 12, 13 apôtres, attention. Mais envoyés, oui. Nous sommes envoyés. Et en ce sens-là, nous sommes des apôtres. Ben c'est en lien avec la deuxième question. C'est quoi un apôtre? C'est un envoyé, c'est une envoyée. Nous sommes un en sens des apôtres. Pourquoi on ne peut pas le devenir de nous-mêmes? Nous pouvons le devenir. Il faut y aller, il faut juste se mettre en route. Mais pas au sens apostolique de l'Ancien Testament. Et je pense que... du Nouveau Testament. Je pense que le Nouveau Testament s'arrête à l'Apocalypse. C'est le dernier mot de Dieu. Et il nous faut faire attention avec l'usage du mot apôtre, en particulier quand cet usage implique ou a recours au pouvoir des uns sur les autres. Attention. Par rapport à ton point 5, que devraient faire les chrétiens ordinaires de l'EM en pratique, à ton avis? Comment s'améliorer pour Dieu? C'est quoi mon point 5? La personne qui a posé la question, est-ce qu'elle peut mettre un petit mot ou le dire à haute voix? C'était quoi mon point 5? Parce que moi, je ne numérote pas mes points. Il y a des gens qui comptent les points, c'est génial. Arbitre à Roland-Garros? Le rôle des chrétiens ordinaires dans ce récit? Ah oui, ben voilà. Oh, super question. Merci, c'est Barbara qui fait les slides et elle numérote. Merci. Et nous, l'amour, l'hospitalité, l'accueil, la confiance faite à autrui, l'accompagnement de ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Ben ouais, en fait, il faut faire ça. Comme Ananias, comme Barnabas. Mais ce qu'on fait déjà, ce que vous faites déjà, regardez. Pourquoi est-ce que les rangs sont quasiment pleins et pas tout vides? Ben parce que je pense que les gens ils se sentent accueillis. Pourquoi on a des enfants qui acceptent de rester 50 minutes là, devant, alors que même en classe, ils ne font pas ça? Pourquoi j'ai des parents qui me disent, et je ne vais pas donner les noms, mais ils se reconnaîtront, Thierry et Rebecca, pourquoi il y a des enfants qui se plaignent s'ils ne viennent pas à l'église, alors qu'il y a la fête des vergers? Parce qu'ils sont bien. L'amour, l'hospitalité, l'accueil, la confiance faite à autrui. Pas se méfier tout de suite. Pas se méfier du tout. Tant pis, on va avaler des couleuvres, ce n'est pas la première ni la dernière fois. Pourquoi on accueille des gens différents? Pourquoi l'église de Mérin, elle n'a pas un truc comme ça? On sait exactement où on arrive, puis dès qu'on sort, on peut mettre dehors. Parce que vous avez 60 ans de pratique inclusive. C'est à faire vivre. Et j'aimerais nous encourager pour manifester l'Évangile à persévérer dans ce sens de l'amour, de l'hospitalité, de l'accueil, la confiance faite aux autres et l'accompagnement de ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Ça vaut le coup d'accompagner nos enfants, ça vaut le coup d'accompagner le caté, ça vaut le coup d'accompagner le groupe de jeunes. Quel bonheur vendredi soir, quel bonheur. Tous et toutes, on peut le faire. Je demande à Dieu qu'il nous encourage à le faire. Et pour les dernières questions, comment utiliser Slido? Ben, comme vous venez de le faire là, en posant des questions sur l'application qui arrive chez moi, et chez Mathieu, et chez Thierry, je crois. C'est anonyme.
Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. Il y a encore beaucoup de choses qui résonnent, en tout cas chez moi.
Je vous encourage à le faire tout à l'heure, soit dans le foyer, soit entre vous ou plus tard, mais que ça puisse continuer. Juste quelques petites annonces. Le 13 septembre, il y aura une activité ici. Pardon, non, le 13 décembre. Excusez-moi, le 13 décembre, il y a construire la Bible en Lego. Ça s'adresse aux enfants, mais je crois qu'il y a les Lego, les adultes commencent à jouer beaucoup aux Lego. Alors voilà, donc ce sera pour les enfants, construire la Bible en Lego. Il y a la fête de Noël, pour ceux qui ont un agenda qui doit se remplir, la fête de Noël de notre église sera le 14 décembre à 15h ici. Et puis le 8 et 9 novembre, il y a la kermesse, la KO, comme on l'appelle. C'est un moment très important à Mérin pour la communauté catholique et réformée. Et nous y participons avec un stand biblique et une activité pour les enfants. Claude Panigoni me demande de prendre le relais aujourd'hui. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour ces activités à la kermesse, pour le stand biblique ou bien pour l'activité des enfants, venez vers moi, je vais prendre note de vos inscriptions. Toutes les activités de l'EM, les rendez-vous, les informations se retrouvent dans l'Actu Mérin. Pour ceux qui ne reçoivent pas encore l'Actu Mérin, vous pouvez voir Thierry au fond ou moi-même, on vous indiquera comment recevoir l'Actu Mérin. Séverine, tu as juste une petite info?
Alors, moi, je viens juste vous solliciter pour la prière parce que, donc, en allant accompagner les plus jeunes dans la foi, on est quelques-uns issus de Mérin à travailler pour la Ligue en tant que bénévole. Et puis, la semaine des vacances scolaires, nous allons à la Bessonne, qui est donc une maison qui appartient aux Grains de Blé et qui mettent à disposition pour les camps de la Ligue en attendant que Rougemont finisse d'être rénové. Et donc, il y a Joanne Rocha, qui est issue de Mérin, Marie Ray, Carole Jeunecamp, Anne Negrini et moi-même, ainsi que Zoé Paulet, qui va être monitrice, et plusieurs enfants, Naëla et puis Julie Jeunecamp, qui vont être juniors, parce qu'en fait, on est en train de les former pour qu'ils soient moniteurs un jour à leur tour, et plusieurs enfants issus de la communauté. On va tous se réunir autour d'un camp qui s'appelle Mini Chef, et donc on va cuisiner. Et donc moi, je serai cuisinière pour le camp, et puis les enfants vont cuisiner aussi durant ce camp et ramener des bonnes choses chez eux. Le thème de ce camp, c'est aimer comme Jésus. Donc vous pouvez prier pour que nous puissions, en tant que staff, aimer comme Jésus, que les enfants puissent aimer comme Jésus entre eux et qu'ensuite ils soient eux-mêmes bénis pour aimer comme Jésus au retour dans leur foyer. Pour la petite histoire, les camps mini-chefs, nous on aime énormément Rougemont. Et Rougemont est en rénovation et a eu un feu sur leur site récemment. Et donc, l'équipe de la Ligue nous demande de prier pour eux parce que les semaines 41, 42 et 43 de l'année doivent avoir du beau temps parce que le toit va être remanié. La semaine 41, c'est celle-ci maintenant. Donc, vous pouvez prier pour du beau temps pour notre camp aussi. Et puis, s'il y a du stratus sur le plateau, soyez reconnaissants parce que ça veut dire qu'il fait beau en montagne. Alors voilà, la petite anecdote aussi, c'est que Mini Chef aime tellement Rougemont qu'on a été le dernier camp à Rougemont avant les rénovations, ce qui nous a donné le droit de taguer tous les murs avec tout ce qu'on voulait dans ce chalet, parce qu'il allait être démonté. Et avec les travaux qui risquent d'arriver, les camps sont de l'année prochaine, les camps d'été ne pourront peut-être pas avoir lieu à Rougemont, mais le camp d'automne, qui est le nôtre, Mini Chef, risque d'être le premier camp. Et donc, on en a rigolé parce que les derniers seront les premiers. Alors, petite anecdote, mais juste pour vous encourager à prier pour ces camps. Je ne sais pas si vous en avez vécu, que vous soyez adulte ou enfant, mais ce sont des pierres blanches dans la vie des gens. Alors voilà, priez pour que ça soit des pierres blanches pour les enfants qui puissent rencontrer Jésus.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et la clôture de ce culte. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu es partout près de nous. Tu es au-dessus de nous pour nous faire du bien. Tu es au-dessus aussi derrière nous pour nous pousser. Tu es au-dessous de nous pour nous porter. Tu es au-devant de nous pour nous conduire. Tu es tout autour de nous pour nous éclairer. Sois en chacun et chacune de nous, Seigneur, et notre vie sera vraie et bonne pour tous. Amen. Passez une belle journée et une belle semaine.